Salut à toi, jeune femme, jeune fille, précoce, tardive ou en transition. Mère, grand-mère ou nullipâtre, vieille sorcière, guerrière, infirmière, lesbienne, bisexuelle et hétéra, salut à toi.
La mince, la grosse, la mystique, l'anarchiste, la valide, l'handicapée, toi qui sais que ton corps est plein de super pouvoirs, salut à toi.
Avec toutes les nuances de ta peau, de tes origines sociales, familiales, culturelles, avec toutes les nuances de tes idées, salut à toi.
On t'a fait du thé, bien, les violettes sont sur les ondes. On va parler féminisme intersectionnel.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre deuxième épisode de la série Femmes et Argent. Nous tenions à remercier une fois de plus Radio Moulin pour la participation et la diffusion du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de précarité, mais avant, nous allons continuer notre réflexion que nous avions eue à l'épisode 1 sur le capitalisme patriarcal et ses conséquences. Je vous laisse avec Mihaela.
Et Mihaela, il me semble que tu as lu un petit quelque chose sur cette question.
Complètement. Et mais avant de vous dire quoi, je veux dire que cette stratégie, ça me fait penser vraiment à la stratégie de guerre divisée pour mieux régner. Parce que c'est un peu ce que a fait le patriarcat. Peut-être on va pas tomber dans le complotisme en se disant qu'il y a quatre mecs dans une salle ou qui ont créé des des petits plans comme ça, comment diviser les féministes noires et les féministes blanches ou les femmes noires. Mais quand même, je pense que c'était même, on peut se dire que même inconsciemment, ça a été, en fait, je pense que les coûts, c'était qu'est-ce qui est moins chiant pour nous, en tout cas, c'est de donner le droit de vote aux femmes blanches et d'autres droits, tout en sachant que on pourra aussi un peu les tenir sous notre influence ou commencer pour qu'elles puissent pas se rallier avec d'autres mouvements féministes. Donc voilà, moi j'ai pensé à ça pendant que tu parlais. Tanita, et du coup, ça rejoint complètement ma troisième lecture du jour. Je vous rassure, j'ai pas tout lu aujourd'hui, mais
on se rend compte que tu es la seule à avoir bossé, quoi. C'est ça. Non, pardon. Tanita aussi un peu quand même. Bon, Agathe, nous on est dans le clan des quoi. On n'a pas fait le job. On n'a pas.
Ouais,
fait
voilà, c'est ça.
Si si, cher auditeurice, ça va arriver.
On vous a dit, c'est une émission hyper longue. On a fait des choses, mais après.
Oui, c'est ça. Donc, moi, ça m'a fait penser justement à une lecture que j'avais faite il y a un petit moment, qui est le Manifeste pour les 99%, qui a été écrit par trois co-autrices, Cynthia Arruza, Titi Batakaouria et Nancy Fraser. Je suis désolée si j'écorche les noms. Et qui sont aussi les organisatrices de la grève internationale des femmes et qui justement, dans leur manifeste, défendent un féminisme pour les 99%, donc en gros pour la plupart des personnes qui habitent sur cette terre, parce que dans leur sens, en tout cas dans ce qu'elles expliquent, c'est que le féminisme dans ce monde néolibéral capitaliste, c'était de réussir dans ce cadre imposé par ce monde capitaliste. Et donc, c'était un peu de ce que tu disais, Agathe, de se plier aux règles et de répondre un peu aux standards qui étaient imposés, de ne pas sortir de ce cadre, alors qu'elles trois, justement, elles luttent, prône plutôt un féminisme inclusif qui est capable de converger l'anticapitalisme, le racisme, l'écologie politique, l'anti-impérialisme et aussi l'anti-hétérosexisme pour justement créer un peu un monde où tout le monde se sent bien et pas que 1% de population, parce que si on prend le titre, ça voudrait dire qu'il y a 1% de toute la population qui bénéficie de ce monde. Pour arriver à ses fins, en tout cas, elle préconise une solidarité internationale parce que le problème qu'elle explique qu'on a actuellement, c'est pas le problème qu'il y a des riches et des pauvres. Le problème, c'est qu'il y a des riches qui exploitent, qui sont riches parce qu'ils exploitent des pauvres. Et si on extrapole ça au niveau des États, il y a des États qui sont riches parce que sont des États néocoloniaux et qu'à un moment donné, on exploitait des États et continue de les exploiter aussi actuellement. Et c'est pour ça que ces États sont pauvres. Donc, voilà, pour sortir un peu de cette oppression capitaliste, mais au niveau aussi international. Et ça me fait aussi penser à ce que tu disais, Tanita, à ce dont on a parlé dans le tout premier épisode, qui est un peu l'empouvoirment, l'émancipation, qui ne peut pas être individuelle. On ne peut pas s'empouvoirer dans notre coin toute seule, mais que ça doit être au niveau... international, pour le coup, si on reprend un peu les écrits dans le manifeste. Et voilà, c'est un monde dans lequel j'aimerais bien vivre.
Ouais, moi aussi.
Et du coup, là, c'est 1% dont tu parles, enfin, les autres, parce que là, les 99% du titre, c'est un peu tout le monde, mais les 1% dont tu parles, on ne les a pas désignés, mais... C'est qui ? C'est quoi ? C'est les 1% les plus riches qui détiennent en gros toutes les richesses ou quasiment la moitié ou plus de la moitié des richesses mondiales, c'est ça ?
Ouais, c'est un peu c'est ça, c'est les plus riches et pas forcément les États les plus riches parce que c'est pas toujours un État qui détient les richesses, c'est des grandes multinationales, c'est parce que il faut pas se leurrer aussi, certains États servent des intérêts de certaines entreprises qui exploitent des ressources dans certains pays. On peut parler des ressources de la terre, on peut parler de l'or ou des choses comme ça, mais on peut parler d'une industrie qui nous paraît très anodine, qui est l'industrie du textile, où il y a des multinationales énormes qui, pour s'enrichir, exploitent des personnes dans les pays pauvres et vendent ça à des prix 4, 5, voire 10 fois supérieur au coût de la production dans des pays dits développés, et je mets des guillemets là. Donc on peut retrouver ça dans énormément d'industries, cette technique-là d'exploiter des pays, des populations pour s'enrichir. Et forcément, il y a derrière, le problème, c'est qu'il n'y a pas de redistribution de richesses. Les richesses sont concentrées dans les mains de ces 1%. Il n'y a pas d'investissement dans autre chose. Il n'y a pas l'argent, il circule pas. Il n'y a pas cette théorie de ruissellement dont justement, je pense que Hélène Peruvier, elle parle aussi. Je ne sais plus si c'est elle, mais en tout cas, c'est un leurre, cette théorie de ruissellement. L'argent ruisselle des plus riches aux plus pauvres. Donc, plus il y aura des riches, plus l'argent va ruisseler vers des pauvres. Et donc, ça coupe encore ?
Ouais, pardon. Peu, ouais. Ouais, tu peux couper ta caméra pour reprendre.
Ah oui, mince. Ouais.
Arrêtez. On en est à la théorie du ruissellement.
Ouais, tu peux reprendre la théorie du ruissellement.
Et donc, la théorie du ruissellement dit que l'argent ruisselle, donc des industries ou des personnes les plus riches vers les plus pauvres. Donc, plus il y a des riches, plus il y aura aussi des pauvres qui vont s'enrichir à leur tour, si on veut. Donc, c'est pour ça que la croissance est importante. C'est pour ça que il faut plus consommer pour arriver vers cette théorie de ruissellement. Et pour moi, c'est complètement faux. Parce que justement, l'argent ne ruisselle pas. L'argent, il est gardé dans les mains de certains et certaines peut-être, mais c'est le plus souvent c'est des certains. Et il n'y a pas de redistribution de richesse. Et c'est ça le problème.
Et moi, ce que je trouve dangereux en plus avec ce genre de théorie écrite et réalisée par des experts,
experts et non pas expertes, parce que comme tu dis, la plupart du temps, c'est des hommes, c'est que c'est hyper technique et c'est hyper bien fait. Et moi, je sais que personnellement, je lis ça, je comprends pas tout et je peux y croire, entre guillemets. Et rien que la capacité de comprendre et d'avoir un esprit critique sur ce genre de théorie, c'est hyper compliqué si on n'a pas les bases. Mais si on n'a même pas les capacités d'avoir les capacités de comprendre, c'est un cercle vicieux et on n'en sort pas. Et c'est compliqué d'avoir un esprit critique. Et d'ailleurs, c'est la chance aussi, parfois dans les luttes, d'intellectualiser des réalités et des récits et d'ériger ça en doctrine, c'est que c'est quand même une chance de pouvoir faire ça. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Agathe. Il y a parfois un côté très abstrait, en fait, quand on voit certaines constructions théoriques, on se dit « Ah bah oui, en fait, c'est des gens qui ont réfléchi, ils sont bien plus compétents, bien plus formés que moi. Donc, si moi, ça me semble pas tenir la route, c'est peut-être parce que j'ai pas les billes, quoi, en fait, parce que je suis pas bien formée ou que c'est pas mon domaine. » Et de fait, de se laisser un peu impressionner, justement, par une construction théorique qui semble hyper carrée, alors qu'en fait, derrière, c'est un peu l'horreur, quoi. Enfin, c'est un peu...
Ouais, c'est clair. Et il faut se sentir légitime, en plus.
Ouais.
Parce qu'il y a eu quand même, là, c'est hors sujet, mais je ne sais plus si c'est dans les années 50, on pensait que les bébés ne sentaient pas la douleur. Donc, on faisait des opérations sur des bébés sans anesthésie. Parce que les médecins de l'époque pensaient que les bébés ne sentent pas la douleur et personne ne... Je veux dire, si, certainement, il y a eu des personnes qui pensaient différemment, mais en tout cas, la pensée un peu mainstream, c'était celle-là. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper dangereux parce qu'on a l'impression que c'est légitime, que c'est réfléchi, que c'est des experts. Et donc, on croit à leurs paroles. Alors qu'on ne devrait pas, mais on n'a pas toujours ni le temps ni les moyens de questionner tous ces sujets-là.
Ouais, ça demande effectivement de rentrer chez soi, d'avoir un moment, de ne pas être crevé, de ne pas avoir bossé toute la journée, de ne pas avoir des enfants qui courent dans tous les sens. Et ce luxe-là, il n'est pas accessible à beaucoup de monde, en effet. Ouais.
Et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour essayer de déconstruire un peu toutes ces théories, d'en parler sans forcément lire. Quand on n'a pas forcément le temps de lire, on a toujours le temps d'écouter un petit podcast en fond pendant qu'on fait autre chose.
Exactement. Moi, j'écoute des podcasts en faisant la vaisselle. Ça, c'est du travail productif, quoi, tu vois, du coup. Ouais. Et pour clore cette introduction cadrage historique, vous avez vu qu'on a quand même ramassé des ressources un peu diverses et variées et que c'est une introduction un petit peu longue. Moi, j'avais envie de revenir justement sur ce qu'on appelle le travail productif et le travail reproductif. Alors, c'est presque les mêmes mots, on peut avoir l'impression que ça désigne à peu près la même chose, mais j'avais envie de reprendre un petit temps pour qu'on comprenne bien pourquoi justement le capitalisme est patriarcal et pourquoi cette question des corps féminins est spécifiquement au centre de beaucoup de problématiques liées à des discriminations liées au genre. Alors, pour commencer sur une note un peu plus fun et un peu plus drôle, parce que là, on est quand même rentré dans un peu de théorie successive, moi, je me suis repenchée sur quelques images sur lesquelles j'étais tombée qui m'avaient fait franchement mourir de rire, qui sont des gravures anciennes, alors qui existent depuis le 15e siècle, hein, donc c'est pas tout récent, mais souvent les représentations visuelles, les petites caricatures, les gravures, c'est une bonne façon de comprendre aussi comment pense la société et comment les choses sont construites. Et j'étais tombée sur plusieurs éléments visuels, et notamment, alors je ne sais pas si vous connaissez ça les filles, des représentations de lutte pour le phallus. Ça vous dit quelque chose ou pas ?
Pas du tout,
non. Non.
Dis-nous en plus.
Bah, alors, la lutte pour le phallus, souvent, vous avez représenté un espèce d'arbre assez géant. Et au lieu d'avoir des fruits, vous avez des petites bites, hein, des petits phallus un peu partout dans l'arbre. Et en dessous de l'arbre, on a des femmes qui se battent pour aller chercher et cueillir ces phallus dans l'arbre. Non, ça ne vous dit rien ? Vous n'avez jamais vu ça ? Non.
Non.
Bah, promis, je vous enverrai ça parce que ça vaut le coup d'être regardé. Et quand j'ai découvert ça, non, mais notamment, j'ai vu qu'il y avait même des espèces de mosaïques entières ou des peintures murales, quoi. Tu vois, le truc vraiment dans un bâtiment, c'est un mur entier avec cette lutte pour le phallus, quoi. Et en fait, tu as la même chose avec des gravures qui représentent des femmes qui s'écharpent, qui s'étripent, et qui, ça s'appelle la lutte pour la culotte. Donc, c'est ces idées, en fait, justement, que les femmes se battent pour atteindre la culotte. Et en fait, la culotte, c'est vraiment le symbole du phallus parce que c'est le lieu de pouvoir, en fait. Porter la culotte, hein, c'est de là que vient l'expression, c'est-à-dire être en charge, quoi, avoir le power, avoir vraiment la puissance, quoi. Et la puissance est associée au phallus. Et en fait, dans ces gravures, qu'est-ce que ça induit ? C'est que si on laisse les femmes libres de décider de qui sont leurs partenaires sexuels, bah, elles font n'importe quoi, elles se battent entre elles, elles se tirent les cheveux, elles donnent des coups de poing, etc. Et donc, le sous-texte, c'est de se dire, bah, on ne peut pas laisser les femmes choisir avec qui est-ce qu'elles vont se marier, parce qu'elles n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre les enjeux pour que dans la société, tout se passe bien. Et du coup, si on les laisse choisir avec qui elles veulent coucher et avec qui elles veulent se marier, bah, en fait, le monde va partir dans tous les sens parce qu'elles ne comprennent pas qu'il faut qu'elles se marient avec telle personne parce que l'héritage doit aller à telle famille, ou elles ne comprennent pas qu'en fait, il faut qu'elles se marient avec tel homme parce que ça fait des alliances entre les familles, etc., etc. Donc, en fait, vous voyez que cette espèce de caricature où des femmes se battent entre elles, ça m'a vraiment fait penser aux espèces de caricatures misogynes à souhait des femmes qui se battent pendant les soldes pour un sac à main ou une pièce de vêtement ou un truc comme ça, mais c'est vraiment le même genre. Et ces représentations-là, en fait, sont restées pendant des années et des années, jusqu'au 19e siècle, et en fait, on voit qu'elles restent dans les imaginaires. Donc, il y a toujours cette idée que les femmes ne contrôlent pas leur corps, que quand elles sont dirigées par leur désir, elles font n'importe quoi, elles font les mauvais choix et c'est la catastrophe pour la société entière, quoi. Agathe,
ouais, tu moi, veux ça me dire quelque chose ? Publicité problématique ou notamment une de parfum. Alors, je ne me souviens plus la marque, mais je me serais fait un plaisir de la nommer. C'était donc un parfum et un homme avait mis ce parfum sur lui et dans la rue, des milliers de femmes couraient après lui en robe de mariée. Parce que c'était l'homme avec un grand H. Et donc, cette représentation, elle est restée en effet super longtemps, vu que ça, c'était une pub il y a 10 ans.
C'était Axe, même pas.
Ah, merci, Mirella, de dénoncer. C'était Axe.
Alors, je crois pas, mais en effet, Axe a fait aussi d'autres.
Il y en a eu d'autres qui ont eu cette bonne idée de faire le même style de pub.
Malheureusement, je pense qu'il y en a eu plein, ouais. Et pour tout, pas que les parfums.
Et du coup, tu vois, on a l'impression que c'est une espèce de juste une vieille blague misogyne, mais qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences. Mais derrière, en fait, on voit comment ça construit complètement un rapport au monde qui est complètement en défaveur des femmes. Et c'est un petit peu, moi, ce que j'ai voulu aller reprendre. Pourquoi je vous parle de ça, la lutte pour le phallus, la lutte pour la culotte ? Parce que je me suis repenchée dans un bouquin que j'ai trouvé absolument passionnant, extrêmement bien écrit, absolument merveilleux, de cette autrice dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Silvia Federici. C'est une penseuse, une autrice, une intellectuelle d'origine italienne, mais qui écrit majoritairement en anglais. Et qui a pensé depuis très 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 longtemps les rapports entre justement travail, capital et femme, et notamment les rapports historiques. Et dans cet ouvrage, Caliban et la sorcière, elle fait un peu toute l'historique des sociétés qu'on va appeler pré-industrielles, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en est venu là en fait ? Comment est-ce qu'on est passé d'une société où a priori les femmes avaient la possibilité de travailler à peu près librement, disposer à peu près librement de leurs ressources, de leur argent, de ce qu'elles, ou en tout cas de ce qu'elles produisaient avec leur travail, aussi de leur corps et de la façon dont elles contrôlaient justement la possibilité ou non de donner naissance à une société où en fait c'est devenu absolument impossible. Et ce que fait Silvia Federici, c'est nous montrer que ce qu'on imagine comme étant quelque chose de l'ordre du de tout temps, les femmes ont été dominées par les hommes. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Ça s'est vraiment mis en place en même temps que la mise en place de la société capitaliste. Alors, c'est aussi son point de vue et sa perspective parce que, bah, comme Angela Davis, elle est marxiste, elle aussi, hein, donc on ne se refait pas et on analyse les choses avec un point de vue particulier. Mais elle a vraiment fait le job, c'est-à-dire d'aller chercher dans un nombre d'archives et de ressources incroyables pour comprendre finalement les raisons multiples, concordantes, qui ont servi à construire une différence en fait entre les potentialités attribuées aux hommes et aux femmes, quoi. Et elle dresse son étude à la fois en Europe, mais pas uniquement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle regarde aussi comment tout ça a été mis en place au moment même justement où c'est une période où il y a une domination aussi extra-européenne qui passe par la colonisation, et de quelle façon le projet colonial est absolument lié au projet de domination des femmes et des corps de façon très générale, et d'exploitation aussi des ressources naturelles. Donc c'est là où on recroise un petit peu Françoise Daubonne dont tu parlais tout à l'heure, Michaela. Donc en fait, elle parle d'une... en fait, elle nous dit bien qu'on a construit l'image de femmes qui étaient déraisonnables, futiles, sauvages, gaspilleuses, quoi. Et ça, c'est vraiment une construction qui s'est jouée notamment autour des 16e et 17e siècles. Et puis, une fois que c'était mis en œuvre, après, on n'en est pas sorti, quoi. Et on a encore du mal à en sortir aujourd'hui. Et en fait, elle nous dit que cette période de transition... c'est une période qui est sans précédent, notamment d'érosion des droits des femmes, parce qu'il y a une dévalorisation systématique, économique et sociale des femmes, et couplée avec un processus d'infantilisation. C'est-à-dire qu'en gros, les femmes deviennent des enfants, donc pas raisonnables, donc pas responsables, donc ne peuvent pas en fait décider de ce qui est bien pour elles, quoi. Donc parmi les, elle fait tout un petit récapitulatif, c'est un gros bouquin, donc je vous donne juste quelques petits éléments. En fait, elle va chercher dans les lois notamment, quelles sont les lois votées à cette époque et qu'est-ce qui change pour les femmes. Alors parmi les éléments, il y a notamment l'impossibilité des femmes à conduire des activités économiques par elles-mêmes. En gros, avant, les femmes pouvaient faire ce qu'elles voulaient, vendre, mettre en place un magasin, etc. Et du jour au lendemain, ça n'est plus possible. Il faut soit qu'elle soit mariée, soit qu'elle soit accompagnée par un père, un frère, un oncle, etc. Autre décision, l'impossibilité à se représenter elle-même au tribunal. Et là, Silvia Federici parle du droit français, des lois en France, où les femmes sont déclarées légalement, je la cite, « imbéciles ». Et donc, comme elles sont imbéciles, elles ne peuvent pas parler pour elles-mêmes au tribunal. Donc, encore une fois, ce n'est pas très réjouissant. Parmi les choses aussi qui ont du sens, les femmes sont dans l'impossibilité de vivre seules ou de vivre avec d'autres femmes. Et ça, c'est une loi en Allemagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si une femme est veuve ou si une femme veut quitter le domicile familial, en fait, elle ne peut pas. Elle est obligée systématiquement de vivre avec un homme. Il y a également une dévalorisation généralisée du travail des femmes et notamment la disparition des métiers qui étaient avant exercés par des femmes et notamment dans les rues. En fait, elle nous explique, Silvia Federici, qu'à partir de ce moment-là, alors que les femmes étaient très, très largement présentes dans la rue pour plein de petits métiers, c'est très mal vu que les femmes soient seules dans la rue. Et ce qui va de pair, c'est le côté, si elles sont seules dans la rue, elles peuvent subir des agressions, c'est dangereux pour elles. Donc, les femmes, en fait, sont exclues de l'espace public à partir de ce moment-là, petit à petit. On va avoir le temps de rebondir, parce qu'il y a plein de choses. Et autre chose, et là, on arrive vers le nœud central, et justement la lutte pour le phallus, etc., l'assignation des femmes à la reproduction. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on oblige les femmes à être, en fait, des procréatrices, donc des femmes qui génèrent des enfants, il y a une criminalisation du contrôle féminin sur la procréation. C'est-à-dire que les femmes ne sont plus en mesure de contrôler les naissances elles-mêmes, soit elles toutes seules, soit en passant par les services d'autres femmes. Et c'est ce qui est un peu l'enjeu du livre. Ça s'appelle « Caliban et la sorcière » parce que c'est autour de cette idée de la mise en place de ce qu'on appelle une chasse aux sorcières qui passe notamment par ça. Mais ce que nous montre Silvia Federici, c'est que ce n'est pas juste un projet à échelle locale, c'est que c'est vraiment des projets à l'échelle des États où les États contrôlent les naissances lorsqu'ils ont besoin de main-d'œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'ils reprennent aux femmes le contrôle sur leur corps et sur la reproduction. Et donc, ce que nous dit Silvia Federici, c'est que finalement, il y a une aliénation totale des femmes par ce principe qui fait que leur corps se retourne contre elles. En fait, pas du jour au lendemain, hein, c'est assez lent, mais auparavant, les corps étaient les alliés des femmes parce que c'est ce qui leur servait à travailler, à circuler, à désirer, à vivre des amitiés, etc. Et que d'un coup, les corps des femmes sont leur pire ennemi parce que finalement, elles sont obligées de procréer. Elles n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont en régime marital, bah, faut qu'elles génèrent des héritiers et des travailleurs et des travailleuses. Il y a également, elle précise, l'ostracisation, c'est-à-dire la mise à l'écart de la société si vous aviez un enfant hors mariage, ou même la mort, donc la condamnation du fait d'avoir des enfants hors mariage. Et enfin, elle met en avant le fait qu'il y a une augmentation absolument hallucinante du travail sexuel rémunéré, qu'elle caractérise comme la prostitution, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le travail du sexe, à ce moment-là, donc un petit peu avant notamment, parce que les terres agricoles qui étaient exploitées par des paysannes, notamment pour leur propre compte, bah, deviennent privatisées. Donc, il n'y a plus de terres collectives. Et donc, ces femmes n'ont plus de quoi se nourrir. Elles n'ont plus d'argent, elles n'ont plus de biens propres. Et donc, elles ont recours à d'autres moyens, justement, pour pouvoir générer de l'argent, quoi, pour survivre, quoi. Donc, ce qui est passionnant dans ce bouquin, c'est de voir que c'est une très longue et très lente transformation. On a l'impression, c'est pour ça qu'on a cette impression que c'est un peu « ça a toujours été comme ça » ou « c'est naturel que » ou « en même temps, les hommes ont toujours dominé les femmes », etc. Mais elle nous dit au contraire, c'est un vrai travail de sape sur des années et des années, et c'est suite à ça qu'émerge un modèle de femme qui est celui que, encore malheureusement, beaucoup de personnes ont en tête, qui est celui d'une femme comme une épouse idéale, donc passive, obéissante, économe, taiseuse, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle parle trop, travailleuse et chaste, surtout. Et en fait, ce changement-là, ça s'opère à la fin du XVIIe siècle. Et une fois qu'on comprend tout ça, on se dit, mais attends, on s'est fait avoir, mais sur toute la ligne, quoi, parce que d'une, tout ça, ça a été mis en place, mais aussi, on a cru au fait qu'il y avait un peu un rapport naturel, genre nos ancêtres étaient des gros misogynes de tout temps, hein, et qu'on ne pouvait rien y faire, et que, en gros, la société, c'est une évolution historique vers le progrès. Pas du tout. En fait, elle nous dit que c'est vraiment lié à la mise en place d'une société qui privilégie la propriété privée, l'exploitation des ressources, l'exploitation des corps, et bah ouais, on oblige les femmes à se marier, à faire des enfants parce qu'on a besoin de travailleurs, parce qu'à cette époque-là, la seule force de travail, bah, ce sont les corps, ce sont les muscles, ce sont les os des corps. Et on a besoin de ces corps pour travailler en Europe, mais aussi justement dans les nouveaux territoires colonisés. Et bah, on va reproduire exactement la même chose dans ces nouveaux territoires colonisés où là, on va exploiter allègrement tous les corps. Donc, voilà. Est-ce que vous avez envie de réagir, les filles, par rapport à ça?
Non, mais après, on voit bien du coup que c'est ce qu'on dit depuis le début, en fait, hein, que ce rapport à l'argent qu'ont les femmes, enfin, en tout cas, le rapport à l'argent que la société veut imposer aux femmes est totalement lié à... Enfin, c'est que c'est pas une évolution vers le progrès, etc., et qu'il y a un modèle économique qu'on défend derrière, et que pour imposer ce modèle économique-là, on contrôle le corps des femmes. Et du coup, c'est totalement lié. Ce qui veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de patriarcat. Mais en tout cas, le patriarcat, je pense, existait avant le XVIIe siècle, mais il n'était pas directement... Le point névralgique de ce patriarcat-là n'était pas l'argent. Et le capitalisme a fait, en fait, finalement, que l'argent est devenu un point central. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on soit là aujourd'hui et qu'on parle de femmes et argent, parce que ce n'est pas juste gérer un budget, c'est vraiment politique. Et comment, en fait, le politique va déposséder la femme de la question d'argent, alors que c'est totalement lié, en fait, et que le patriarcat est totalement lié aujourd'hui à cette question d'argent.
Ouais, peut-être qu'on peut dire que le capitalisme a, d'une certaine façon, et a institutionnalisé le patriarcat. Donc, comme tu disais, avec des lois, et ça l'a rendu presque légitime, en tout cas aux yeux de ceux qui étaient d'accord avec ce modèle économique. Donc, ouais, c'est dangereux, et c'est bien de... Enfin, ça permet de comprendre complètement le lien entre le capitaliste et le patriarcat.
Oui, Tanita, pour rebondir, bien sûr, en fait, à aucun moment, Silvia Federici dit « avant, c'était génial et il n'y avait pas de patriarcat ». Au contraire, je pense qu'il y avait une domination masculine qui existait, bien sûr, mais en tout cas, qui n'était pas autant un projet politique institutionnalisé comme tu le dis, en fait, Agathe. C'est-à-dire que il y avait possibilité de s'arranger localement. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours être en résistance, négocier, jouer avec les failles, sans être en fait mise à l'index de façon très large socialement en fait. Et la différence, elle est là surtout, je pense.
Et je pense aussi que la différence, c'est que maintenant, cet argument que ça a toujours existé et que ça a toujours été comme ça, ça valide un peu ce comportement. Ça valide plutôt l'organisation patriarcale parce que on entend que ça a été toujours comme ça, donc pourquoi changer si ça a toujours été comme ça? Et donc pour moi c'est ça aussi le piège du patriarcat et du capitalisme qui ont fait croire pendant des générations que finalement ça c'est le seul modèle qui puisse exister.
Oui, avec ce truc un peu induit bizarrement du « mais c'est naturel en fait ». C'est ce côté, l'organisation, elle est instinctive, alors que pas du tout, c'est un projet politique. Et d'où, effectivement, j'ai l'impression que plus on avance dans notre discussion, plus on se rend compte que le rapport à l'argent est extrêmement politique. On le savait un peu, mais là, on rentre un peu dans le corps des choses, quoi.
Oui, justement, ce que disait Tanita est très juste. C'est pas juste une question de gérer un budget, même si ça, au niveau personnel, c'est très important aussi. Mais au niveau d'une lutte globale, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a d'autres enjeux qui rentrent ici et qui sont importants à prendre en compte.
Et par rapport à l'exploitation justement des corps de femmes racisées, je sais, Tanita, que tu avais réfléchi à une petite mise en correspondance aussi avec un bouquin de Françoise Vergès. Est-ce que tu voulais en discuter ou alors c'était peut-être pas toi, peut-être que je me
c'était
suis plantée.
C'était pas moi, pardon.
Excuse-moi, je croyais que c'était toi qui avais envie de nous en reparler. Excuse-moi.
Il me semble que c'est Mireille là, non ?
C'était bien moi, mais
Mihaela, pardon, du coup. Tu vois, en plus, je viens piocher ton attention, alors que du coup, tu dis mais quoi ? Mais non, c'était pas moi. Ouais, en fait, pour vous expliquer les dessous de ce podcast, on est hyper bien organisé. On a un petit document avec un peu quelles sont les approches portées par les unes et les autres. Puis des fois, on n'a pas fait tout merveilleusement bien et c'est là où ça déraille, quoi.
Je ne sais pas si Tanita, tu as quand même envie de réagir à ce sujet-là. Mais sinon, juste pour un peu lancer la discussion, en fait, Françoise Vergès, dans son livre « Un féminisme décolonial », elle parle beaucoup des corps racisés et des corps genrés. Où elle dit que notamment le capital et l'État désignent ces corps, donc les corps racisés et usés, comme étant propres à être usés et à être malades, à être victimes de certaines maladies, d'handicaps, sans être reconnus après par la suite. Donc en gros, pour le capital, les corps racisés et genrés sont juste des corps qui sont bons à exploiter. Sans autre contrepartie par la suite. Et donc, elle parle de quelque chose qui m'a paru assez intéressant, elle appelle l'économie de l'usure, qui divise les corps entre ceux qui ont le droit d'être en bonne santé et qui ont le droit de se reposer, qui ont le droit d'être pas ce droit-là, parce que ils sont tout simplement exploités par le travail et que finalement, par la suite, elle dit aussi que certains handicaps ou certaines maladies qui viennent des maladies professionnelles ne sont plus reconnues.
Oui, donc là, on est vraiment sur l'exploitation à toutes les échelles avec vraiment un rapport hyper cynique. Enfin, on n'a pas encore dit ce mot depuis le début du podcast, mais je crois que c'est un peu ça, peut-être un des enjeux de ce podcast, c'est réfléchir au cynisme de certaines pratiques, et c'est-à-dire du fait que on essaye d'exploiter au maximum les corps qu'on considère comme étant inférieurs, entre guillemets, de les faire travailler, de les faire s'user, de les faire s'abîmer, mais on exploite aussi les capacités financières de certaines femmes, notamment, alors on fait un petit saut, mais en pensant au marketing genré, c'est-à-dire que du coup, c'est vraiment sur tous les tableaux, quoi. On exploite les forces de travail, mais on exploite aussi les ressources des femmes, quoi.
Et les ressources aussi des personnes noires ou des personnes racisées, parce que notamment aux États-Unis, il y a eu un gros mouvement de marketing qui était le marketing pour les noirs. Quand les noirs ont commencé à avoir le pouvoir d'achat, parce que dans l'idée, c'était juste pouvoir vendre des produits, ce qui est complètement aberrant, parce qu'ils ont commencé à faire des produits spécifiques pour les noirs, juste pour pouvoir leur vendre. Et ça peut se retrouver dans ce que tu dis aussi, des produits spécifiques pour les femmes, ou pour pouvoir juste leur vendre plus de des choses dont on n'a pas forcément besoin. Tanita, tu avais envie de réagir?
Oui, bah justement, en fait, c'est d'ailleurs le projet de la fin de l'esclavage aux États-Unis et à travers le monde est un projet totalement capitaliste. C'était absolument pas dans un projet humaniste d'égalité, mais dans une volonté. En fait, ça suffisait plus, la consommation des femmes et des hommes blancs et blanches ne suffisait plus, donc il fallait ouvrir à plus de gens. Et donc, on a fait... on a mis fin à l'esclavage, comme ça on avait de la consommation de ces femmes et de ces hommes, donc un marketing qui était totalement visé. Et en fait, c'est là où on voit encore une fois que vraiment tout est lié et qu'on a un projet politique derrière qui se cache derrière de belles idées, mais qui est un vrai projet politique. D'ailleurs, petite anecdote, ce sont les républicains qui, aux États-Unis, ont mis fin à l'esclavage et non pas les démocrates, parce que les républicains étaient ceux qui voulaient libéraliser l'économie. Donc voilà, c'est... une petite anecdote qu'on oublie bien souvent maintenant, mais voilà, ça en dit long.
Et comme tu l'as bien dit, c'est pas pour des fins humanistes.
Tout à fait.
Malheureusement, oui.
Agathe, tu voulais revenir sur cette question de marketing genré? Enfin, il me semble que tu y avais réfléchi un petit peu et que tu avais fait quelques petites recherches chiffrées, notamment.
ouais, en plus on en parlait tout à l'heure, on évoquait la publicité. Bon là en l'occurrence pour le parfum, la pub, l'homme était visé pour l'acheter, mais sinon on sait que la femme est quand même une bonne grosse cible pour le marketing, et on veut quand même lui vendre une panoplie de choses plus ou moins essentielles. Et en plus, on peut se dire que du coup, on dépenserait plus d'argent alors qu'on est moins payé. Et du coup, j'ai rechecké tout à l'heure les chiffres, parce qu'on n'a pas parlé de l'écart salarial en France, mais on peut quand même rappeler qu'il y a un écart de 8% qui subsiste si on compare les rémunérations des hommes et des femmes occupant les mêmes postes et ayant les mêmes caractéristiques. Donc, on est quand même moins payé, comme tu me le rappelais aussi, dans la fonction publique. Voilà, je me suis dit que c'était quand même important de le rappeler. Et 16% si on ne prend pas en compte le même poste, etc. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, ça rajoute en plus une charge mentale, parce qu'on doit penser à s'épiler, on doit penser à se faire belle, on doit penser à aller le samedi acheter ses produits, parce que sinon, justement, on ne va pas être belle ou pas épilée pour son rencard du soir, je ne sais pas. Et donc, j'ai trouvé une étude qui parle justement de ces chiffres. Donc, elle s'appelle Ad Reaction de Kantar. Ça doit être un institut de sondage, je ne sais pas. Réalisé en 2019 en France. Donc là, on parlera que de la France. Pour certaines catégories de produits où les professionnels ciblent encore quasi exclusivement les femmes. Donc, c'est le cas pour 98% des publicités de lessive, d'entretien ou de produits pour bébés. Est-ce étonnant? Je ne pense pas.
Voilà, ce sont uniquement les femmes qui font la lessive, l'entretien et qui s'occupent des enfants, hein, bien sûr.
Voilà. Les voitures, je ne sais pas si on a les mêmes chiffres. 82% pour des publicités pour des produits d'hygiène et 78% des publicités pour de la nourriture. Donc, les femmes seraient résumées à s'occuper de la maison, des enfants, de leur hygiène et de leur esthétique et à nourrir le foyer. Bon, ok.
Donc, et je voulais aussi. En gros, les gros achats sont faits par les hommes, les achats avec des tarifs élevés, les publicités avec tarifs élevés, tu parlais des voitures, mais pour les petits achats du quotidien, dans la multiplicité des achats, c'est les femmes qui gèrent l'argent, quoi.
Ouais, dans le quotidien, et j'imagine que pour tout ce qui est plaisir aussi, les hommes peuvent être visés parce que, voilà, tout ce qui est activité extrascolaire, souvent ce sont les hommes qui s'en occupent. Enfin, extrascolaire, j'entends extra quotidien et tout ce qui est dans le plaisir et ce qu'on peut faire le week-end avec ses enfants, par exemple, c'est souvent c'est papa qui paye, c'est papa qui s'en occupe, pour des couples hétérosexuels en l'occurrence, bien sûr. Mais il y a un peu ce côté-là, ouais. C'est vraiment le quotidien et la logistique, quoi, du foyer. Et on voit très bien qu'avec les chiffres qui sont quand même énormes, la femme reste responsable en plus, donc charge mentale, forcément, de tout ça, quoi. Et je voulais parler aussi de la taxe rose. Donc la taxe rose, c'est la différence de prix entre des produits étiquetés pour femmes et ceux étiquetés pour hommes. Donc là, on parle du même produit, hein. Donc la seule différence, c'est le genre de l'acheteur ou de l'acheteuse, et donc souvent la différence, c'est la couleur. Donc par exemple, un rasoir pour femme, il va être rose, et le rasoir pour homme, il va être bleu, mais il va être moins cher. Allez savoir pourquoi. Donc les rasoirs, les déodorants, les dentifrices, les stylos, il y a eu des études sur ça, et voilà, il y a vraiment plein d'objets qui étaient concernés, et notamment les tampons. Donc là, pour le coup, ce n'est pas une question de couleur, parce que les hommes cis, en l'occurrence, ne sont pas concernés par l'achat de ces produits. Mais donc là, c'est plutôt une question de TVA. Parce que avant 2015, la TVA applicable aux protections périodiques était de 20%. Donc c'est le taux le plus élevé de TVA qu'on peut avoir quand on achète un produit. Et pourquoi, en fait, c'était à 20%? C'est parce qu'on ne considérait pas ces produits, donc les protections périodiques, comme des produits de première nécessité. Ce qui est très bizarre. Je me permets de faire une pause parce qu'il faut quand même enregistrer ça.
Ouais.
Et du coup, à savoir, les produits de première nécessité, eux, bénéficient d'une TVA à 5,5%. Donc la différence est quand même énorme. Et ça, on parle de 2015. Et il y a le collectif Georgette Sand, du coup, qui a mis en lumière cette aberration. Et ça a marché parce que j'imagine qu'on avait pointé ça du doigt avant, mais en l'occurrence, en 2015, ça a fait du bruit. Le collectif s'est emparé de la question pour faire bouger les choses, parce qu'il y en a marre. Et en fait, ça a marché, et le Parlement a finalement adopté la baisse de la TVA, donc pour les protections périodiques, passant de 20% à 5,5%. Donc, petite victoire. Depuis le début, comme tu disais, c'est assez plombant. Mais voilà, on peut peut-être se réjouir de quelques victoires comme ça. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, il y a une semaine ou deux semaines, l'Écosse est devenue le premier pays au monde à rendre gratuites les protections périodiques pour tous et toutes dans le besoin. Donc ça, c'est quand même très cool et j'espère que ça va inspirer d'autres pays qui ne sont pas loin, notamment la France, par exemple. Et plus localement, je me suis dit que c'était intéressant de rappeler que l'Université de Lille a mis en place des kits précarité menstruelle, donc des kits gratuits à disposition contenant des protections périodiques, donc gratuits. Et là, j'ai vu tout à l'heure, là, il y a deux ou trois jours, ils font une collecte. Non, je pense que la collecte est déjà faite, mais en tout cas, ils proposent là, même avec le confinement, il faut s'inscrire. Et on peut en bénéficier là bientôt. Donc, je ne sais pas quand le podcast sortira, mais en tout cas, faut checker, je pense, sur le Facebook de l'Université de Lille ou leur site. Et je pense qu'ils communiquent sur ça. Donc, c'est bon de le savoir quand même.
Et pour rebondir là-dessus, peut-être on a des auditeurs et des auditrices plus loin que Lille. Ce genre de dispositif commence à être mis en place un peu partout en France. Et notamment, moi, j'ai découvert très récemment, je ne savais pas du tout, mais il y a certaines mutuelles qui proposent une prise en charge partielle pour le financement justement des protections périodiques, quel que soit le choix en fait, donc que ce soit des protections périodiques jetables ou durables, donc par exemple ça marche aussi pour les cups, etc. Mais en fait, d'après mes infos, mais peut-être vous en avez d'autres, c'est que la MGEN et c'est à hauteur de 25 euros annuel, donc ce qui est vraiment pas grand-chose. Mais en tout cas, le bon signe, c'est que c'est quand même majoritairement une mutuelle qui est à destination des étudiants et des étudiantes. Et de fait, ça a du sens de pouvoir leur proposer ce remboursement, notamment parce que c'est souvent aussi les personnes les plus précaires, en fait. Donc voilà, je vois qu'il y a des petites réactions et que peut-être mes infos ne sont pas les bonnes ou que vous vouliez réagir par rapport à ça.
Non, tes infos sont, enfin, je pense, bonnes. En tout cas, je n'ai pas la réponse, mais moi, je sais que je suis à la LMDE et je suis, pas sur le forfait que j'ai, mais sur le forfait à 15 euros par mois qui reste quand même assez, assez respectable pour une mutuelle, qui est une mutuelle qui s'adresse aux étudiants. Il y a une prise en charge des protections hygiéniques qui avant étaient partielles et qui maintenant est totale, il me semble. Bon, après, ça s'adresse qu'à des étudiants, bien entendu. Donc, encore une fois, on a un problème. Ça ne s'adresse pas aux jeunes femmes ou jeunes actives qui sont aussi face à la précarité ou même aux gens face à la précarité. C'est vraiment pour les étudiants et les étudiantes. Voilà, et donc on a un remboursement. Après, il y a toute la paperasse qui va derrière parce que c'est pas on va acheter, on monte notre carte mutuelle, on est remboursé. Il faut conserver les tickets. Ils font quand même une politique de pour éviter que tout le monde le fasse. Hein, on est quand même dans une logique d'assurance, mais c'est bien de le dire pour celles qui nous écoutent et qui seraient intéressées par LMDE, donc rembourse partiellement ou en totalité en fonction des forfaits les protections hygiéniques. Voilà.
Super, bonne nouvelle, Tanita.
Moi, j'avais une info, mais peut-être, Tanita, tu peux me confirmer si c'est vrai ou pas, que c'est pas ouvert qu'aux personnes qui ont leurs règles. En tout cas, si on est un mec cis et qu'on a envie de soutenir des potes ou des amis ou sa copine ou son copain, mais qui a ses règles, mais en tout cas, c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont leurs règles. N'importe qui, de toute façon, ils peuvent pas vérifier ça, mais n'importe qui peut aller acheter des protections et se faire rembourser. Donc voilà, si vous voulez être un bon allié, faites-le.
Quand même, ça veut dire que aussi, ça pose pas de problème pour les hommes trans de faire cette demande, par exemple.
Ouais, déjà oui.
Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Et d'ailleurs, quant à ces questions de précarité et de personnes trans, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu une initiative récente qui était liée notamment au premier confinement, mais qui continue encore, qui est un fonds spécial, un fonds d'aide sociale trans qui a été mis en place par la communauté, hein, comme très souvent, et notamment par la super association AcceptST. Et c'est à l'initiative de deux personnes, dont Giovanna Rincon, qui est une des grandes voix de AcceptST, mais en collaboration aussi avec l'humoriste, acteur et réalisateur de podcast Océan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de cette initiative, mesdames.
Pas du tout. Après, moi, j'étais en Erasmus pendant le premier confinement, donc non, j'en ai pas entendu parler.
Oui, moi, un peu, parce que je suis un peu sur les réseaux sociaux Océan, et du coup il avait communiqué dessus.
Moi non.
L'idée en fait, c'était pendant le premier confinement, un peu en aide d'urgence, de notamment collecter et mettre à disposition des paniers en fait, notamment avec des produits d'alimentation et de première nécessité. Et puis par la suite en fait, c'est un peu un principe de mutuelle ou de tontine, c'est-à-dire que c'est un appel aux dons, et l'idée c'est de soutenir les personnes trans les plus fragilisées en ces périodes justement de confinement, notamment parce que durant le premier confinement, il y avait beaucoup de petits métiers, de petits boulots ou aussi de personnes qui pouvaient être travailleurs ou travailleuses du sexe qui n'avaient plus aucun revenu du jour au lendemain. Et donc, de fait, l'idée, c'était que la communauté puisse se rendre visible et se soutienne, et notamment que les alliés puissent soutenir cette communauté par un fonds spécifique, puisque c'était un peu les grands et grandes oubliés parmi les aides sociales qui pouvaient être mises en place par l'État. Donc, encore une initiative militante, associative et pas étatique.
Et pour rebondir sur ces questions de précarité, on a aussi la question des femmes exilées ou sans papier. Les immigrés ont un niveau de vie médian inférieur de 35% à ceux des non-immigrés, donc c'est quand même important de le signifier. Le taux de pauvreté, il approche 40% contre 14% en moyenne en France, selon l'Observatoire des inégalités. Et aussi sur la monoparentalité, en 2010, près d'une famille monoparentale sur trois vit sous le seuil de pauvreté, alors que c'est le cas de 14% de l'ensemble des ménages. Donc on voit qu'il y a quand même une surreprésentation dans la précarité des femmes, parce qu'on sait que par exemple les familles monoparentales sont en majorité portées par des femmes. Donc c'est important de le signifier aussi sur cette question d'argent et de précarité.
Ouais, bien sûr. Et moi, je voulais parler des étudiants. Donc, avant même la crise du Covid, parce qu'on sait que ça a carrément amplifié la précarité étudiante, on estimait déjà que 20% des 2,7 millions d'étudiants de France vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc, avec le Covid, ça a explosé. Et là, notamment, d'ailleurs, beaucoup d'enquêtes sortent. Et même s'il y a eu quelques aides avec le CROUS, les étudiants font aussi partie des oubliés de la crise. Et donc, il y a justement une enquête Ipsos qui a révélé qu'à l'issue du confinement, donc du premier, je pense, 74% des jeunes interrogés ont estimé avoir rencontré des difficultés financières. Donc, c'est désolant, mais malheureusement, ça ne m'étonne pas. J'ai quelques amis qui sont dans ce cas-là. Et j'ai notamment discuté avec une amie étudiante dans la même licence que moi, donc je tairai la licence parce que je vais l'anonymiser. Et elle doit travailler à côté de ses études pour subvenir à ses besoins. Et donc j'ai volontairement changé son prénom. On l'appellera donc Manon. Et voilà, donc je n'en dis pas plus et je préfère vous laisser l'écouter pour comprendre son parcours.
En vrai, genre quand j'ai commencé à vivre sans mes parents, genre c'était un stress de ouf. Et genre, je voulais tout compter et tout. Je voulais faire un budget genre pour mon alimentation, un budget pour loisirs et tout. Mais vu que je suis grave anxieuse de base, genre j'ai tenu genre 2 mois. Sauf que je me suis rendu compte à quel point genre ça me... Enfin, genre chaque dépense, je le comptais et tout. Et genre, ça me faisait devenir un peu radine et tout. Et genre, c'était horrible. Après, j'avais pas beaucoup d'argent en vrai. Genre, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Mais du coup, au bout d'un moment, genre, il y a un truc qui s'est débloqué. J'étais en mode, vas-y. Aussi parce que j'ai découvert l'effondrement de la société et tout. Et en fait, j'avais de l'argent de côté et je me suis dit, en fait, ça se trouve, ça va s'effondrer dans 3 ans et j'aurai encore plein d'argent de côté dont je ne me serais même pas servie. Et c'est bête, en fait. Genre, autant profiter maintenant et de pas compter et tout. Genre, c'est horrible. Genre.
Ouais, l'argent qui dort, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Genre, je me suis dit, ça ne sert à rien de faire le dragon et de dormir sur sa thune, quoi. Puis aussi, je vivais avec mon ex, du coup, qui était... sans absolument aucun argent, il avait aucun contact avec ses parents, il était SDF. Et du coup, genre, je devais forcément l'aider. Enfin, je l'aidais par moi-même, mais je veux dire, du coup, c'était plus la peine de compter parce que j'avais pas que l'argent pour moi et je devais. Enfin, bref, ça dépassait forcément mon budget, quoi. Du coup, je me suis dit, vas-y, genre, autant arrêter de compter et me débloquer sur ça, quoi. Et après, du coup, j'ai plus regardé du tout. Jusqu'à ce que j'ai plus d'argent. Ouais, et là, je me suis dit, il va falloir travailler. Et en fait, après, j'ai pas réussi à trouver de boulot. Enfin, genre, j'étais trop... Enfin, j'étais un peu dans une phase compliquée, on va dire. Où, genre, la fac, ça me prenait toute mon énergie. Et genre, j'avais même pas toute mon énergie pour aller à la fac. Enfin, j'y allais, genre, assez peu. Enfin, relations toxiques et tout. Genre, du coup... J'avais pas du tout l'énergie pour bosser, clairement. Au bout d'un moment, il a fallu quand même. Mais c'était genre au bout de 3 ans, tu vois. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pensé au TDS parce que, en fait, même actuellement, j'ai toujours pas l'énergie d'avoir un boulot à côté de la fac. Mais ouais, c'est là que j'ai pensé du coup au travail du sexe parce que je savais que c'était genre. Enfin, que j'avais une amie du coup, genre, qui était prostituée. Enfin, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et je savais qu'elle gagnait, genre, ce qu'elle gagnait par rapport pour 1 heure. Et du coup, je me suis dit, en vrai, c'est le seul métier qui me permettra, genre, de pouvoir continuer les études à côté. J'ai pris la décision d'être TDS en lisant King Kong Theory. Et elle parle, en fait, du fait que le mariage, du coup, c'est un contrat, mais qui n'est pas explicite. enfin en tout cas traditionnellement, où genre la femme ouais, donne du travail entre guillemets gratuit, mais que l'homme rapporte de l'argent, du coup ce serait... Mais du coup le contrat est vraiment genre super flou, et au final on se fait clairement avoir. Alors que si le contrat est plus clair, si c'est la femme qui impose ses tarifs, bah là clairement c'est... Ouais, enfin ouais. Je trouve que c'est ce qui m'avait motivée de base.
Alors donc voilà Manon, on va la retrouver plus tard dans l'épisode... à propos de d'autres thématiques de ce sujet femme et argent. Mais voilà, là, je voulais revenir sur vraiment le choix qu'elle a fait de devenir TDS. Et j'ai l'impression qu'il a quand même été évident. Alors, quand je dis évident, bien sûr, il a été mûri et réfléchi, parce que devenir TDS, ce n'est pas un choix évident dans notre société, parce que ce n'est pas très accepté dans les mœurs. Ça reste beaucoup stigmatisé. Mais elle, dans sa réflexion personnelle et de façon pragmatique, elle s'est dit, voilà, j'étudie, ça me demande du temps, mais je dois me faire des sous pour vivre et je dois chercher un métier qui est rentable. Donc, couplée avec cette réflexion sur le mariage comme forme de prostitution, j'ai quand même l'impression qu'elle a eu un déclic et ça a été comme une évidence.
Ouais, bah, de toute façon, le mariage, c'est clairement une matrice pour moi. Enfin, le mariage hétéro, pensé traditionnellement, parce que bien sûr, maintenant, on a des formes de mariage, et bien heureusement, qui se sont ouvertes au mariage du même genre, etc. Mais le mariage, pour moi, c'est traditionnel, c'est la base de la matrice patriarcale, et c'est ce qui fait, en fait, que les femmes deviennent dépendantes financièrement, et les maris, du coup, peuvent disposer de leur épouse en termes sexuels et en termes de gestion de foyer, hein, clairement, en échange d'argent, donc c'est pas très jojo. Mais heureusement qu'aujourd'hui on a ouvert la question du mariage et qui aujourd'hui n'est plus qu'un arrangement tacite financier et qui peut être un mariage d'amour et même une revendication d'amour et c'est très bien.
Oui, après, moi, personnellement, je suis un peu anti-mariage. Alors, du coup, tu vois, t'as pas besoin de me convaincre, Tanita. J'étais déjà un peu dans ton camp sur la remise en question du mariage. Par contre, je trouve ça très, très bien hein, que les gens se marient. Mais eux, moi, ça va, quoi. Franchement, tranquille, quoi. Alors, moi, j'avais envie de vous faire écouter une autre petite capsule. C'est un peu le festival des capsules, mais on a profité, en fait, de ces émissions pour interroger, discuter et avoir des belles conversations avec nos proches. Et celle-ci va être vraiment très, très courte. On retrouve Chérifa, qu'on avait entendu un peu rapidement dans le premier épisode, qui va nous dire vraiment en quelques petits mots comment ça se passait dans son couple financièrement, justement, au moment où elle était encore... en couple avec le père de sa fille.
Dans le couple, je devais m'imposer financièrement. Et après, quand j'ai eu ma fille, bah oui, ça a été le désastre. Ça n'a jamais été fluide, l'argent. Quand je vivais avec lui, je ne savais même pas combien il gagnait. Moi, j'avais aucun souci avec ça. Bah, les copains me disaient, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas vivre avec un mec comme ça. Bon, c'était un défaut, je me disais, ça le regarde. C'était son argent, c'était pour lui.
Ben ouais, c'était son argent, c'était pour lui. Donc, on voit bien la différence hein, entre l'argent pour lui de ce compagnon et l'argent pour la famille, la plupart du temps, lorsque les femmes travaillent ou gagnent de l'argent. Donc, c'est un peu le souci. Alors, c'est un mot de la fin un peu terrible quand même. Peut-être vous voulez réagir, Michaela, Tanita ou Agathe ?
J'ai envie de réagir et de dire d'où l'importance de discuter du sujet de l'argent, en fait, de ne pas le taire, de s'instruire sur ce sujet, de questionner plein de choses. L'argent, en fait, cache aussi énormément de sexisme dans plein de domaines. Et donc, voilà, c'est l'importance aussi d'avoir ces temps-là où on échange, on questionne, on discute. Et j'espère que ça va faire aussi réfléchir nos auditeurs et nos auditrices.
Merci Michaela. Tanita, un petit mot de la fin pour rebondir sur ces questions des problématiques financières au sein du couple. On t'a entendu sur le mariage, mais...
Oui, bah, je rejoindrai vraiment Michaela. Pour le coup, je pense que c'est important d'en discuter parce que je pense que comme le couple en général, il y a une question de confiance Et l'argent, pour moi, malheureusement ou heureusement, ça dépend des opinions de chacun, mais dicte un peu nos vies quand même. Et du coup, c'est la base aussi de la confiance dans le couple et la confiance autour de l'argent, parce que quand on n'a pas confiance sur ces questions-là, je pense que c'est difficile de tenir si on veut se poser dans la vie avec quelqu'un. Voilà. Donc, un peu de transparence et de la communication surtout avec un peu des règles quoi, qu'on se fixe ensemble. Et toutes les règles sont acceptées, bien sûr, tant que c'est fait main dans la main.
Pardon, Agathe, tu voulais réagir sur ce que disait Tanita ?
Ouais, je disais, enfin, il faudrait en fait lever le tabou aussi sur l'argent qui est présent en France. Comme c'est tabou de demander combien on gagne. Je ne sais pas si c'est un truc très français, mais en tout cas, je ne pense pas que ça sert à grand-chose. Donc ouais, c'est l'occasion de... Allez, on enlève le tabou. Il ne sert à rien.
Et bah, je crois que c'est une super conclusion pour cette seconde émission sur les liens entre femmes et argent. Agathe, merci parce que tu me facilites le travail grandement. En tout cas, encore une fois, j'étais absolument ravie de passer cette heure avec vous à discuter de ces liens, de ces problématiques et de ce tabou justement que peut être l'argent dans nos vies, dans nos quotidiens et dans nos expériences personnelles. On tient à remercier une fois de plus Radio Moulin pour l'accompagnement général autour de ce podcast Violette sur les ondes. L'équipe est fantastique. Il et elle nous accompagnent, nous conseillent, nous enregistrent parfois. Donc, pour cette seconde émission, on était encore chacune chez soi derrière nos écrans. Donc, désolée pour les éventuels petits parasites sonores. Mais en tout cas, on aura grand plaisir à vous retrouver très prochainement. Au revoir, Agathe.
Au revoir. Au revoir à tous et toutes.
Au revoir, Michaela.
Au revoir et à très bientôt.
Et au revoir, Tanita.
Au revoir à vous et au revoir, auditeurice.
À bientôt.